Bonjour à tous, bonjour et merci d'être présent pour cette nouvelle émission, ce nouveau rendez-vous, Frames Live, qui aura lieu les mardis et vendredis à 17h. Alors, je m'appelle Patrick Beau, je suis l'animateur de la chaîne Axolot notamment, et j'aurai la joie de présenter cette émission dans laquelle on recevra deux invités à chaque fois. Donc l'émission a lieu sur la chaîne du festival Frames. Pour une bonne raison, c'est parce que donc on voulait essayer de proposer un équivalent du festival ou en tout cas de l'esprit du festival en vidéo pour voilà adoucir un petit peu ce confinement. Il y a énormément d'initiatives qui sont faites ici et là par des tas de créateurs qui proposent du contenu pendant ce confinement pour occuper les gens. Et donc dans la foulée de cet élan comme ça de solidarité, on s'est dit qu'on allait vous proposer quelque chose aussi dans l'esprit du Festival Frames. Donc ça veut dire que on va essayer de vous faire découvrir des vidéastes. Alors parmi nos invités, il y en a que vous connaîtrez et puis d'autres que vous ne connaîtrez pas. Donc l'idée, voilà, c'est de mettre en avant le travail des gens qui créent de la vidéo sur Internet. Et pour commencer cette émission, cette première émission, ma première invitée, c'est Marie de la boîte à curiosités. Bonjour Marie.
Bonjour Patrick, bonjour tout le monde.
Est-ce que tout est OK? Est-ce que, alors je m'adresse à Vince, mon bon Vince qui est à la régie. Est-ce que les deux écrans sont là? Est-ce que tout marche bien? Parfait.
Parfait.
Superbe. Donc, Marie, bienvenue, merci d'être avec nous. Tu es
Merci à toi.
la marraine de ce rendez-vous.
Ben, je suis très honorée, merci d'avoir pensé à moi surtout. C'est trop
Eh ben, on
cool.
est ravis de t'avoir. Alors, moi, j'ai pensé à toi parce que je trouve que tu es une chaîne, on va dire que tu incarnes une chaîne totalement emblématique de ce qu'on veut essayer de mettre en avant dans la première partie de cette émission, c'est-à-dire des gens qui font un super travail et qui gagneraient à être plus connus. Et donc, moi, ce qui m'a bluffé dans ta chaîne, La Boîte à Curiosité, c'est que dès le début, dès la première vidéo, il y avait une qualité de réalisation absolument bluffante. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment donc tu en es arrivé à faire de la vidéo et comment se fait-il que la qualité soit déjà aussi bonne alors que c'est très très récent, c'est très jeune?
Alors, tout simplement, alors je vais être très franche, cette aventure au début n'était pas prévue dans ma vie. C'était un petit rêve que j'avais en tête parce que moi, à la base, je ne suis pas du tout dans le milieu de la recherche ou de la science, mais dans le domaine de l'art. Et en fait, l'année dernière, Golden Moustache avec la Banque Postale ont organisé un appel à projet pour réaliser éventuellement, si on remportait cet appel à projet, la vidéo de ses rêves. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tenter de gagner ça? Et j'ai postulé et en fait, contre toute attente, j'ai remporté cet appel à projet. On était deux gagnants. Donc, il y a eu une autre personne qui a remporté ça. Et après, tout s'est lancé très vite et j'avais cette idée de boîte à curiosité. De là, on a eu des réunions d'écriture avec les parrains de l'événement qui étaient Julien Josselin, Anne Israli, Justine Le Potier, donc des personnes très sympathiques. Et on a travaillé un petit peu, ouais, du beau monde. Et du coup, on a travaillé un petit peu sur comment mettre en forme cette chaîne, etc. Moi, la vulgarisation scientifique, c'est vrai que c'est une passion depuis très, très longtemps. Mais de là à sauter le pas, j'étais moins confiante, donc ils m'ont beaucoup donné confiance en moi, etc. Et ils m'ont aidée à rédiger tout simplement ce premier épisode. Et tout ça en binôme avec donc le réalisateur Alessandro Brossolet. Parce qu'en fait, je me mets beaucoup en avant sur la chaîne car je suis la créatrice de la chaîne et autrice. Mais le réalisateur, c'est 50-50, parce que 50% du travail s'appelle Alessandro et c'est lui qui est le magicien de l'image de la chaîne. Voilà pourquoi la qualité est quand même agréable.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pour les gens qui ne connaîtraient pas ta chaîne, ce qu'on peut y trouver?
Alors, la boîte à curiosité, en fait, c'est une chaîne de vulgarisation scientifique axée surtout autour de la biologie et des merveilles de la nature. Ça va parler de nature insolite, je vais parler d'animaux un peu étranges ou bien de mœurs complètement surprenants. Et tout ça mélangé aussi à des documentaires ou de la fiction. Le premier épisode justement qui avait été fait en partenariat avec Golden Moustache était complètement de la fiction parce que la chaîne est axée en fait autour d'une histoire un peu magique. Le but du jeu étant de se dire qu'il faut rester curieux au quotidien. Donc dans le premier épisode en fait on se rend compte que je trouve une boîte magique qui, quand je l'ouvre, va déclencher des événements qui vont me pousser à être plus curieuse au quotidien. Donc, dans le premier épisode, je me retrouve avec Charles Darwin dans mon salon, qui va me pousser à sortir de chez moi et à découvrir, en fait, voilà, avoir un espèce de nouveau regard sur le monde. Parce que pour moi, vraiment, la curiosité, c'est ça. C'est un espèce de filtre sur la vie complètement étonnant. Donc, c'est ce que j'ai envie de communiquer aux autres, c'est comment être curieux au quotidien au travers de ce filtre.
Alors, tu nous expliquais que la vidéo, c'est quelque chose de relativement récent pour toi. À la base, tu es artiste. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton activité artistique? Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus de tes créations?
Ouais. Alors, à la base, moi, je suis artisan d'art, donc rien à voir. Mais pourtant, il y a quand même un petit rapport dans le sens où j'ai toujours été fascinée par, justement, cette nature un peu surprenante et insolite, toujours à quatre pattes au ras du sol, en train d'essayer de trouver des petits insectes, etc. Et en fait, j'ai développé une gamme de bijoux qui tourne autour de l'entomologie principalement, c'est-à-dire les insectes. De manière plus générale, et je fais des empreintes sur des scarabées, des papillons, etc., pour en faire des tirages en or, en argent. Le but étant, une fois de plus, de se dire, bon, certaines personnes ont des phobies d'insectes, mais est-ce que en transformant l'insecte dans une nouvelle matière juste par empreinte, ça peut les aider à les toucher, voire les porter contre eux directement? Donc c'est toujours ce filtre de curiosité, en fait, de base dans mon travail. Donc il y a quand même un peu un rapport avec ça.
D'accord, parce que là, je vois que derrière toi, il y a donc un scarabée.
Peut-être ouais, le tout à voir. Fait.
Donc,
c'est
une création de toi.
Tout à fait, ouais, parce que je bidouille aussi, du coup, pas mal. Je collectionne les insectes et j'en fais aussi des créations. Donc là, c'était des petites chimères. Donc, il y a un lucan cerf-volant avec un papillon, c'est un peu mélangé. Et voilà, je m'amuse.
D'accord. Parce que, voilà, on en avait parlé quand on préparait cette émission. Moi-même, ici, j'ai quelques petits spécimens que je peux montrer à la caméra. Voilà, donc ce petit jewel beetle qui est bien magnifique.
Trop joli.
Voilà, ce petit crâne ici.
C'est quoi comme crâne ?
Je crois que c'est une civette. Hein. Je ne suis pas sûr et certain, mais il me semble. Voilà, et j'ai ce spécimen qui est beaucoup plus rare. Voilà.
Ah, donc, incroyable.
Voilà, c'est une série limitée. Et donc, tu me disais, parce que là, donc, tu n'es pas chez toi, tu me disais que si tu étais chez toi, évidemment, je ne pourrais pas rivaliser en matière de bébêtes.
Bah, en fait, clairement, depuis que je suis petite, je ramasse des tas de choses dans la nature, que ce soit des scarabées, comme je disais, des petites plantes, des lichens, des cailloux, etc. Et constamment, j'en fais des cadres, en fait. Donc, chez moi, dans le couloir, c'est bourré de cadres remplis de plein de petites choses. Pendant mes voyages, je ramène tout ce que je trouve, etc. Donc, c'est vraiment un petit cabinet de curiosité, quoi. C'est vraiment bourré de petits trésors. Voilà. J'aime bien les avoir près de moi, ça me rassure.
Et donc là, en ce moment, tu me disais que l'activité vidéo est en train de prendre un petit peu plus de place par rapport à l'activité artisanale.
Oui, complètement. Je prends les portes qui s'ouvrent à moi. Et là, clairement, la vidéo, voilà, avec Alessandro, donc le réalisateur, on a trouvé un petit équilibre sympa au niveau de l'identité de la chaîne. Et ça roule. Récemment, donc, j'ai rencontré Pierre Kerner qui m'a parrainé pour rentrer au Café des Sciences, qui est une association regroupant les vulgarisateurs scientifiques. Donc, petit à petit, en fait, j'apprends à m'entourer et je reste, même si je ne suis pas du milieu de la science à la base, je m'entoure de scientifiques, de chercheurs, etc., pour pouvoir offrir aussi un contenu qui est bien sourcé, bien documenté, parce que c'est super important quand on fait de la vulgarisation. Donc voilà, je fais petit à petit mes petits pas là-dedans.
Alors, Pierre Kerner, que je connais bien, puisqu'on a travaillé ensemble pour créer le livre Nature Secrète, je ne vais pas faire de promo, hein, donc j'en dirai pas plus. Nature Secrète, qui est un livre sur les merveilles insolites du vivant, bien sûr. Et donc, il a participé à ton dernier épisode qui parlait du Cymotoa exigua. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce parasite ?
Exactement, le Cymotoa exigua. Donc, quand Pierre et moi, on a eu ce projet de faire une vidéo, je lui ai laissé un petit peu... je lui ai dit, voilà, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Et tout de suite, c'était un parasite, forcément, car Pierre adore les parasites. Et le Cymotoa... Ouais, tout à fait. Le Cymotoa exigua est... très poétique. C'est un petit crustacé isopode qui vit dans les eaux entre le Mexique et le Pérou, qui en fait se glisse dans les bouches de certains poissons. Ils vont en fait ils vont parasiter la langue jusqu'à, en fait, pomper le sang de la langue jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un petit moignon. Et à la fin, ils vont se transformer en langue de substitution. Donc ça ne va plus gêner le poisson, entre guillemets, dans le sens où la nourriture du poisson, il va s'en ficher complètement. Lui, il va se nourrir du mucus du poisson. Et c'est, je crois, l'un des seuls parasites capables de devenir un organe de substitution, en fait, concrètement. Quoi.
Le parasite devient un organe. Ouais. C'est vraiment hallucinant.
Il me semble qu'il y a dans Nature Secrète.
Absolument, il est dans Nature Secrète. Et d'ailleurs, alors juste avant, je précise que dans le chat, vous pouvez poser des questions à nos invités, à moi. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez interagir. Et moi, je les poserai ensuite à nos invités. Donc là, il y a une première question qui est: comment appelle-t-on les fans d'insectes? Est-ce qu'il y a un terme pour ça? Plutôt les spécialistes des insectes, je dirais. Quel est le terme?
Du coup, quand on parle d'insectes, on va parler d'entomologie, donc entomologiste pour les passionnés, collectionneurs ou personnes travaillant dans ce domaine.
Est-ce que entomophile marche ou c'est plus ambigu?
Ah, c'est une extrême bonne question, je ne sais pas, j'imagine que oui.
Ouais. Et donc, alors, on parlait du Cimota exigua, là pour l'instant, donc ça, cette vidéo-là fait partie d'une série.
Tout à fait.
Dans laquelle tu présentes plusieurs créatures. Donc là, pour l'instant, il y a eu combien d'épisodes dans cette série-là? Combien d'animaux?
Là, on en est au 6e. Donc, on est sur un rythme de un épisode tous les 15 jours qu'on arrive à tenir pour l'instant, qui présente effectivement, donc, comme je disais, des mœurs insolites ou des animaux un peu étranges et surprenants. Le but étant, une fois de plus, de surprendre le public avec cette nature. Je me souviens d'une émission où tu avais dit quelque chose qui m'avait vachement frappée d'ailleurs. Tu avais dit « on ne peut protéger que ce qu'on aime et on aime que ce qu'on connaît ». Et je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est tout à fait l'esprit, en fait, de aller pas belle la nature. C'est voilà, apprendre à aimer des choses, tout comme dans mon travail dans les bijoux. C'est exactement la même chose. On peut aimer, on peut protéger que ce qu'on connaît comme ça. Et toute cette nature complètement folle, en fait, peut aider à tisser du lien avec cette nature toujours plus fort. Et c'est ça qui me plaît. J'aime bien ce comique. Et puis moi, je m'amuse et je continue à rester manuelle dans ce format en créant des costumes complètement, complètement loufoques avec des objets de récupération, du carton. Voilà,
on peut en parler parce que en dehors de la réalisation des épisodes qui est particulièrement qualitative, il y a aussi la qualité des costumes qui est bluffante et qui fait beaucoup parler d'ailleurs, hein, parce que, il semble que sur Twitter notamment, il y a eu pas mal de relais de tes vidéos, notamment par rapport aux costumes. Donc, comment ça se passe pour les costumes? Donc,
tu fais tout. Alors, je fais tout toute seule. Moi, je me suis mis ce challenge de me dire que je ne voulais pas, entre guillemets, mettre d'argent dans ces costumes, non pas par souci financier, mais plus par challenge de me dire « Ok, j'ai ça devant moi, comment, à partir de là, je vais faire un costume ?» Il faut savoir qu'Elle est pas belle, la nature, c'est parti d'un fait qui m'est arrivé dans le jardin de mes parents où j'ai vu vraiment une reproduction en live de limace léopard. Et je suis rentrée dans le salon. Je suis rentrée dans le salon. J'ai dit à ma famille, non mais c'est incroyable ce qui est en train de se passer, etc. J'ai commencé à le mimer. Et là, je me suis dit, bon bah si je devais mimer et incarner cet animal de la manière la plus simple, comment ça serait? J'ai pris un rouleau de cellophane et je me suis enroulée dans le cellophane et je me suis dit, mais en fait, ça marche. C'est visuel, c'est rigolo.
Est-ce que tu peux nous préciser, pour les gens qui ne connaîtraient pas, hein, la particularité de la reproduction des limaces léopards? Vraiment spectaculaire.
Ouais, spectaculaire. La limace léopard est une des limaces les plus grandes de France, il me semble. Et en fait, elles ont la particularité de se vraiment littéralement jeter dans le vide au long d'un fil de mucus. Et à partir de là, elles se reproduisent, mais dans les airs. Et en fait, quand on voit les photos, on ne se rend pas compte. Mais moi, de ce que j'ai vu de mes propres yeux, c'était vraiment un fil qui faisait au moins 20 cm. C'était complètement hallucinant. Donc vraiment, voilà, c'est un espèce de saut à l'élastique de limaces. C'est totalement bluffant, poétique, à la fois rigolo aussi, quoi, surprenant.
Donc oui, si on appliquait ça à la sexualité humaine, ça reviendrait à se reproduire en saut à l'élastique. Et l'élastique serait donc une ligne de morve. En gros, ce
Ouais,
serait
de
ça l'idée.
morve de bave, exactement. C'est
Ok.
très bien imagé.
Alors, il y a des questions qui nous arrivent du chat. Alors, un making-of des costumes serait-il envisageable pour une vidéo?
Oui, alors ça serait pas du tout à mon avantage parce que clairement, généralement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on me voit qu'au niveau jusqu'à la taille pendant les épisodes.
Ah.
Donc en dessous, généralement, je suis en jogging.
Comme
Ça
moi,
n'a aucun
exactement.
sens. Voilà,
Ouais.
ça n'a aucun sens. Mais oui, avec plaisir. J'attends d'avoir un peu plus de matière. Là, on commence à avoir un peu plus de matière. Mais complètement. Ouais. Comment je l'ai construit, comment je l'ai conçois. J'avais fait un petit thread là-dessus sur Twitter en mettant les esquisses préparatoires parce que je dessine quand même un petit peu comment je recherche les matières, etc. Mais oui, carrément.
Et là, par exemple, de tous les épisodes que tu as fait pour le moment, quel est le costume qui t'a donné le plus de fil à retordre, dont tu es le plus fier?
Je dirais la Baudroie, parce qu'en fait, je me suis dit ce truc de justement fait simple, et en fait, plus j'avançais, plus j'avais envie de peaufiner, donc j'ai mis des petits strass, etc. Après, avec Alessandro, sur les rushs, on s'est dit ça serait trop bien de mettre une petite lanterne qui brille, etc. Donc, c'est le plus abouti en tout cas.
Là aussi, la sexualité de la Baudroie des Abysses, c'est très particulier. Donc,
C'est parfait.
exercice, admettons qu'on applique encore une fois la sexualité de la Baudroie des Abysses aux humains, ça donnerait quoi? Chez les
Eh
humains.
bien, si j'étais une Baudroie, j'aurais des mâles qui viendraient me courtiser dans mon dos, tout petit, et qui en fait se planteraient dans mon dos, fusionneraient avec ma peau, et pour ne finir plus que réduit qu'à une paire de testicules. Donc en fait, je serais une humaine avec des paires de testicules sur le corps. Pas très pratique, mais ça me ferait de beaux bijoux de famille à porter.
C'est marrant parce que vraiment la nature va plus loin que tous les films de David Cronenberg, que tous les
Complètement.
films de science-fiction. C'est juste incroyable. Moi, c'est ce que je préfère, essayer d'appliquer les comportements les plus étranges du règne animal à l'humanité. Ça bouleverserait tellement notre culture et notre
Complètement.
manière de vivre. Ce serait complètement dingue. Et donc, qu'est-ce que tu as prévu de faire à l'avenir sur ta chaîne? Est-ce qu'il y a de nouveaux épisodes en préparation?
Oui, alors continuer à aller pas belle la nature. Après, on va pas se le cacher, j'ai envie quand même de me diversifier. À la base, sur la chaîne, on avait donc fait cet épisode de fiction avec Darwin. C'était vraiment une très très belle aventure. Maintenant, ça demande une quantité de moyens techniques, etc. C'est vraiment l'épisode où on a été en équipe, c'est-à-dire qu'il y avait toute une équipe technique dessus. Donc c'est sûr que pour remettre ça en place, voilà. Mais il y a un deuxième épisode déjà décrit, mais j'attends un petit peu d'essayer d'avoir quelques aides, etc., voir comment on pourrait s'organiser. Mais de la fiction, ça c'est sûr que j'aimerais en refaire. C'est prévu. Et après, comme tu as pu le voir, ça marche en binôme. Moi, ce que j'aimais bien, c'était de faire une fiction qui menait à une réflexion documentaire, reportage, etc. Et donc, du coup, il y avait eu, suite à ça, un documentaire sur voilà, qu'en est-il du travail de Darwin dans le monde moderne et comment, avec ce filtre de curiosité, dans un seul pigeon, on peut se rendre compte qu'il y a des années d'évolution, alors que voilà, dans la rue, on marche à côté d'un pigeon, on ne se dit pas forcément qu'il y a toute une évolution complètement complexe au travers
Ouais.
de cet animal. Voilà.
On ne se dit pas qu'à la base c'était un dinosaure et que là maintenant c'est un pigeon.
Exactement, par exemple, ouais.
Alors, d'autres questions pour toi, Marie. Comment procèdes-tu pour te renseigner sur tes sujets? C'est une question qui nous vient du chat.
Ouais, et bah comme je le disais, bon, alors déjà, c'est tout un travail de recherche et de trouver des sources fiables. Ce travail-là, il est aussi possible grâce à toutes les personnes qui sont dans le Café des Sciences. Il y a une énorme entraide, voilà, toujours faire relire ses textes, etc. Savoir que quand je publie un épisode, ou même quand je publie sur mon blog, parce que j'ai aussi un blog, c'est toujours relu par quelqu'un, etc. Je trouve qu'en tant que vulgarisateur, c'est complètement obligatoire. C'est pour ça aussi que je mets toutes les sources sous les vidéos, etc. C'est très, très important de s'entourer. Donc, je ne suis jamais seule dans mes recherches. Même quand parfois je me dis, c'est bon, je le sais, je l'ai sourcé, etc. Il peut toujours y avoir des papiers qui ont été mis à jour ou de nouvelles choses à découvrir. Donc, je m'entoure beaucoup.
Et donc, on a une question aussi sur ton parcours. Donc, qu'est-ce qui t'a amené vers l'artisanat dans un premier temps, et puis ensuite la création vidéo dans un second? Quel est le parcours derrière tout ça?
L'origine de l'histoire, en fait, moi j'ai fait une école d'art à Paris qui s'appelle Olivier de Serres. J'ai fait 5 années là-bas, donc j'ai fait un BTS en industrie céramique, donc toujours dans le volume, et après j'ai fait un diplôme des métiers d'art en matériaux de synthèse, tout ce qui est moulage, sculpture, etc., qui découle notamment à faire le métier d'accessoiriste dans le cinéma, la télé, que je fais aussi de temps en temps. Après ça, en fait, comme je te disais, moi j'ai toujours, même dans ses études artistiques, garder un lien avec cette nature, cette science. Pendant mon parcours en école d'art, j'ai fait un stage, 2 stages au Muséum d'histoire naturelle, parce qu'ils ont aussi en fait, ils ont également des ateliers de moulage et de sculpture pour restaurer les taxidermies, etc. Le dernier en date, du coup, c'était dans l'atelier de paléontologie, de dégagement, où en fait ils font des empreintes et du démoulage sur les fossiles qu'ils trouvent, parce qu'il faut savoir que les fossiles restent quand même fragiles, et c'est toujours bien d'avoir une copie pour que les scientifiques puissent manipuler ces copies parfaites en résine plutôt qu'à chaque fois sortir des pièces qui peuvent être fragiles. Et de là, en fait, j'ai fait un rapport de stage vidéo, un peu
Ok.
rigolo. Voilà, ça
D'accord.
c'était avant la chaîne, et j'ai montré à mes amis, à des collègues, etc. Et en fait, tout le monde m'a dit, mais fais-en quelque chose, t'as un ton rigolo, etc. Et à partir de là, j'ai commencé à me dire, bon, je vais peut-être me lancer, et ça a bien fonctionné.
Alors justement, est-ce que tu as aussi une base de comédie derrière toi ou pas du tout? Parce que
Alors,
tu
pas du
incarnes
tout.
bien. Ouais. Parce que tu
Alors,
présentes
pour
bien
être.
et tu joues bien. Je me demandais s'il y avait avant ça du théâtre ou autre chose.
Non,
Non, pas du tout.
pas du tout, du tout, du tout. Il faut savoir qu'il y
Talentueuse.
a un an, quand tout ça s'est lancé, j'avais un peu peur de la caméra. C'était clairement l'un des freins à ce projet. Maintenant, par exemple, pour le premier épisode de Darwin, la première scène qu'on a tournée, c'était dans le Muséum d'histoire naturelle. Je
Ouais.
n'avais jamais été devant une caméra de ma vie.
Wow!
Donc,
D'accord.
c'est très impressionnant, surtout dans un lieu aussi emblématique, etc., avec du monde en fait qui regarde. Et
Ouais.
en fait, comme c'est quand même, j'étais personnage, donc quelque chose que j'avais écrit, il y avait un comédien qui m'aidait quand même à jouer avec moi, qui me laissait pas toute seule. Je me suis laissée porter et au final, j'ai complètement oublié la caméra. Donc voilà, au final,
D'accord.
comment ça s'est passé?
Alors, tu nous disais tout à l'heure que tu as aussi travaillé parfois sur des séries, des films, etc., en tant qu'accessoiriste. Donc, en quoi consistait ton travail dans ces différentes séries et films?
Quand je travaille en tant qu'accessoiriste, tout simplement, on me demande de faire des décors ou des accessoires. Ça m'est arrivé, par exemple, il y a une série qui s'appelle un village français. Bon, je ne sais même pas si elle existe encore.
Ah
Mais
oui, un village français. Oui, je vois tout à fait. D'accord, ok.
on m'a demandé d'aller dans une armerie, d'aller récupérer des vraies armes. Donc, on m'avait fait un petit port d'armes, etc. C'était complètement fou. Et j'ai moulé, en fait, des vraies armes que j'ai dû reproduire en résine pour faire des factices avec toute la partie complexe de se dire qu'il fallait parfois qu'il y ait des coups de crosse sur la tête d'acteur, donc il fallait que ça soit dans des matières plutôt molles, etc. C'est tout ce
Ok.
travail-là. Ça m'est arrivé aussi de mouler des acteurs pour une série qui s'appelait Les Virtuoses, série policière.
D'accord.
Mouler des acteurs pour faire ensuite leur faux cadavre.
Non, tu as moulé qui, par exemple, de connu?
Franchement, c'était pas des grandes célébrités et je serais incapable de te dire qui c'était. Je suis désolée pour eux.
Ok, donc ce qui veut dire qu'ensuite, sur le tournage, vous aviez vraiment le cadavre du comédien en question, ou de la comédienne.
Ouais, en fait, j'avais moulé le visage et les deux bras et on les avait fait ensuite, on les avait enfouis dans de la terre pour
D'accord,
avoir
d'accord.
des bras qui sortaient, ce genre de
Ok.
choses. Donc, toujours ce métier, en fait, de prendre des empreintes. Sur des choses déjà
Okay.
existantes. Voilà.
Est-ce que c'est le truc le plus bizarre que tu aies eu à mouler, ça? Des morceaux de corps, des cadavres?
Franchement, c'était impressionnant, surtout avec cette pression de se dire que quand on moule un visage, il n'y a que 2 pailles qui sortent en fait du nez du comédien. Donc pour respirer, il n'a même plus sa bouche. Donc se dire voilà, de
Ouais.
le rassurer, c'est assez long, ça prend quand même une trentaine de minutes, etc. Démouler sans lui arracher ses poils, etc. Et ouais, c'était très sympa à faire, impressionnant.
D'accord. Alors dans le chat, on me demande avec quel maquilleur aurais-tu travaillé? Une question très précise. Je ne sais pas si ça te va. Ouais.
Non, alors il y a un YouTuber que j'ai découvert au Frames. Je ne sais plus comment
Romain
il s'appelle.
Oulès, peut-être?
Oui, exactement, merci beaucoup. Voilà,
Très, très, très bon. Lui
Romain
aussi,
Oulès
il
que j'ai
gagnerait.
découvert, ouais, qui était finaliste dans les vidéastes du Frame justement l'année dernière, et j'ai découvert son travail qui est complètement bluffant. Il fabrique des masques en latex, il fait des zombies, des plaies complètement réalistes, etc. Et j'avoue.
Est-ce que toi, c'est quelque chose, par exemple, que tu pourrais faire, ça? Des effets spéciaux, des monstres?
Non, parce que là, moi, j'ai pas appris toutes ces techniques du latex,
Ah, d'accord.
qui est plus complexe, parce que là, c'est vraiment, faut poser sur de la peau, etc. Après, le mouler, oui, mais le faire toute cette partie en latex, non. Mais ouais, Romain Oulès, travail très impressionnant et très bonne chaîne YouTube d'ailleurs à découvrir.
Il est très très bon. D'ailleurs, j'ai oublié le nom de sa chaîne YouTube. Tu t'en rappelles du nom de sa chaîne?
Derrière le
Derrière
masque,
le
voilà, tout
masque.
à fait.
Ben voilà, la chaîne Derrière le masque, n'hésitez pas à y aller. Là aussi, c'est extrêmement bien réalisé et il mériterait d'être plus connu. Il nous reste quelques minutes, Marie. Est-ce que tu aurais par exemple des conseils à donner aux gens qui nous écoutent pour occuper leur confinement? Qu'est-ce que tu fais toi par exemple pour t'occuper en ce moment?
Écoute, moi j'essaye de garder lien avec la nature et de le diffuser, de le partager aux autres. Je fais des petites stories nature au quotidien sur Instagram. On a fait des drawing challenge à dessiner des espèces un peu insolites sur Twitter, une par jour. Je me suis trouvé une activité hyper bizarre. J'ai réveillé un blob pendant ce confinement.
Ouais.
Donc je vous présente Blobby la pointe.
Ah, joli.
Voilà, donc je suis tombée un peu amoureuse de cet être vivant complètement fou. Et d'ailleurs, j'ai fait un épisode sur Elle est pas belle la nature, sur le blob, à
Sur le blog.
découvrir. Et sinon, j'ai beaucoup de lectures aussi. J'ai pas trop d'accès Internet, donc je regarde pas trop de séries ou de films. Mais là, en ce moment, je lis ça. Ça s'appelle Manuel universel d'éducation sexuelle, par Olivia Judson. Et un peu comme Marion Montaigne peut faire avec son professeur moustache, ce sont des
D'accord.
animaux, des insectes qui viennent poser des problèmes concernant leur sexualité. Donc, par exemple, la reine des abeilles qui demande si c'est normal que ses prétendants fassent exploser leur pénis dans son corps. Que des choses comme ça, c'est hyper drôle. Donc, beaucoup de lectures de nature et voilà.
D'accord, très bien. Eh ben, merci beaucoup, Marie. Ah, on a une autre question sur le chat. Continues-tu ton travail d'origine?
Oui, bien sûr, oui, j'ai toujours, je continue mes bijoux et je suis accessoiriste régulièrement encore sur des missions, toujours.
D'accord, très bien. Et par rapport à ta chaîne, bon là forcément tout le monde est un peu en stand-by, hein, c'est un peu compliqué d'avancer dans les projets, mais est-ce que tu sais déjà quelle sera ta prochaine vidéo ou pas encore?
Le problème qui se pose, c'est que du coup, moi, je ne suis pas confinée dans mon chez moi de base, donc je n'ai pas mes décors et pas forcément tout le matériel pour faire mes prochaines vidéos. Donc, je suis en train quand même de me décortiquer la tête pour essayer de trouver un petit format qui pourrait être sympa justement pour rester curieux dans ce confinement, parce que être confiné ne veut pas dire ne plus être curieux. Donc, justement, peut-être essayer de trouver quelque chose là-dessus. Je pense que ça pourrait être sympa. Donc, je réfléchis.
Super. Eh bien, merci beaucoup Marie d'avoir été la marraine
Merci à toi.
de cette émission.
Merci.
Je rappelle que ta chaîne s'appelle La Boîte à Curiosité. Donc, normalement, l'ami Vince a posté le lien dans le chat de ta chaîne, qui gagne vraiment à être connue et qui, à mon avis,
Merci.
va rapidement prendre de l'ampleur. C'est tout ce que je te souhaite.
Et ben,
Voilà.
merci beaucoup. Merci pour l'invitation, je suis ravie et puis à bientôt.
Avec plaisir. À très bientôt. Donc, j'espère que ce nouveau rendez-vous, pour le moment, vous intéresse et vous plaît. On va continuer avec un deuxième invité. Ce sera le principe à chaque fois. On aura deux invités. En première partie, une personne qui gagnerait à être plus connue. Et en deuxième partie, une personne que vous connaissez sans doute un peu plus. Et donc, j'ai la joie d'accueillir pour cette seconde partie l'ami Cyrus North. Il est présent. Bonjour Cyrus.
Attends, là, je suis live, là, ou pas? Ok.
Bon, Cyrus, est-ce que tu vas bien?
Ça va, mais ton fond de webcam est trop stylé, mon gars.
Mon fond est flouté, mais normalement, tu peux le faire aussi. Hein. C'est une,
ah
c'est
bon
une fonction sur Skype. C'est dans les options. Tu vas en bas à droite de ta fenêtre Skype. Il y a écrit « Ne flouter mon arrière-plan ». Et tu auras ce délicieux flou. Sauf que toi,
ah,
comme
mais
ton
moi...
arrière-plan est blanc, on ne verra pas la différence,
ouais,
je pense.
Ouais, moi, mon arrière-plan est totalement surexposé.
Alors, cher Cyrus, parfait.
Je suis à l'image.
Ça veut dire
okay.
que jusqu'à présent, j'étais tout seul, Vin, c'est ça?
Salut.
Très bien. Les gens ont compris que je m'adressais à quelqu'un. Donc, Cyrus, pour les gens qui ne te connaîtraient pas,
ouais.
Est-ce que tu peux nous rappeler ton parcours sur Internet, tout
parcours.
Simplement?
Alors, mon parcours, eh ben, j'ai commencé il y a 6 ans. Attends, est-ce que je... Attends, parce que là, du coup, je suis direct en live et tout.
Ouais.
Je referai pas une petite relance là par Twitter, etc. Dire.
Bien sûr, vas-y. Alors, oui. Alors, on va prendre quelques secondes.
Donc, quelques
Cyrus,
petites secondes.
J'explique ce qui se passe. Donc, Cyrus va sur ses réseaux sociaux pour prévenir sa communauté de venir le voir en direct sur Frames Live. Et c'est bien sympathique de ça.
On est en live now. Et là.
La communauté de Cyrus est une communauté très loyale et très fidèle. Ça, j'ai pu le remarquer.
Et une communauté énorme aussi. Énorme.
Énorme, énorme et sèche.
Énorme et sèche.
Voilà. Et c'est mérité parce que Cyrus a un dévouement vis-à-vis des gens qui le suivent qui me touche. Et je
c'est
dis ça au tout premier degré. C'est vrai.
Ah ouais? Ok.
Bah, moi, des fois, quand je suis tes stories et que je te vois t'adresser aux gens qui te suivent, j'ai l'impression de faire partie d'une grande famille.
C'est vrai?
Ça me
c'est... Alors écoute, je crois que t'es pas le premier à me le dire, mais moi ce que je comprends pas, et c'est pour ça que ce compliment, entre guillemets, j'ai du mal à l'assimiler, c'est que je comprends pas ce que je fais de différent par rapport à d'autres influenceurs à ce niveau-là, et je t'avoue que c'est totalement naturel pour moi, donc je...
Mais c'est parce qu'il y a une espèce de complicité comme ça, qui fait qu'on a l'impression vraiment d'être dans ton intimité. On a vraiment l'impression d'être ton pote. Bon, nous, en l'occurrence, on est amis. Mais je pense que même les gens qui te suivent ont l'impression de suivre un ami. Il y a vraiment cette proximité avec les gens, voilà, qui fait que...
Bah, franchement, ça me fait grandement plaisir.
Tu as un public fidèle. Alors, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous rappeler ce parcours, Cyrus? Allons-y, c'est maintenant.
Totalement. Alors, hop, je poste ça sur Instagram, c'est parti. Donc... Il y a maintenant quasiment 7 ans, donc il y a 6 ans et demi, un truc comme ça, j'ai fait ma chaîne YouTube et j'ai commencé avec une émission qui s'appelait Le Coup de Fil, où en gros, le principe, c'était le coup de fil, genre philosophie. Je parlais de concepts de philo en 5 minutes, parfois un peu plus, avec des vannes, des petites scénettes, voilà, ce genre de choses. J'ai commencé avec ça et puis j'ai très vite en fait, je me suis dit que si je faisais que de la philo sur YouTube, ça allait un peu me fatiguer, tu vois, que j'allais m'enfermer dans un truc qui me plaisait pas forcément, enfin ça me plaît pas forcément de m'enfermer, hein, ça me plaît la philo, mais voilà. Et donc j'ai parlé d'actualité avec un truc un peu inspiré des late shows qui s'appelait Seriously.
Oui.
Et ensuite, j'ai fait un truc autour de la pop culture, ça s'appelait Pop-Up, où je prenais un truc de la pop culture et que je philosophais dessus. C'est un peu inspiré des mythologies de Roland Barthes. J'ai fait aussi quoi d'autre? T'imagines si, bien sûr.
T'imagines si. Mais là, par exemple, en ce moment, il y a combien de concepts en fait sur ta chaîne? Tu pourrais les.
Mais mec, non, mais c'est un très très gros problème. Tu sais que très souvent, je me pose sur ma chaîne, je vais dans l'onglet vidéo, je vois juste les miniatures, tu vois, et je me dis, mais en fait, le gros problème de ma chaîne, c'est que en termes de fil rouge, en termes de cohérence de contenu, c'est très peu présent, clairement. Tu vois.
Parce que du coup, je pense que les gens aujourd'hui ont du mal à vraiment définir ce que tu fais. Parce qu'au début, tu étais vraiment étiqueté philo.
Ouais.
Et aujourd'hui, il y a tellement de concepts différents sur ta chaîne que c'est difficile de te ranger dans une case vraiment.
Et je pense que vraiment, ça m'impacte même en termes d'audience, de croissance, de tout ça. Tu vois, je pense qu'en termes de marketing pur, parce que moi, à la base, on remonte encore dans le passé, c'est un peu ma formation aussi. Parce que ça me plaît, en fait, tout ce qui est psychologie, les gens et comprendre les gens, ça me plaît. Et en fait, forcément, le marketing touche aussi à ça. En termes de marketing, c'est naze. tu vois. Le fait que tu arrives sur la chaîne et que tu comprennes pas ok, mais de quoi il parle ce mec, et genre c'est quoi la promesse en fait, tu vois, genre je n'ai pas de promesse sur ma chaîne, et c'est un gros souci. Alors pour ceux qui me kiffent, qui me suivent, ils kiffent, tu vois, ceux qui me suivent depuis longtemps, eux ils kiffent, mais ceux qui veulent découvrir, c'est la porte d'entrée est quand même assez lourde.
Ben d'ailleurs, si quelqu'un qui ne connaît pas ta chaîne voulait s'initier à Cyrus North, qu'est-ce que tu lui conseillerais de regarder en premier?
Alors, j'ai fait une playlist pour ça qui s'appelle Le meilleur de Cyrus North selon Cyrus North.
Oh non.
Tu vas dans playlist et il y a toutes les vidéos qui, selon moi, sont mes meilleures.
D'accord. Genre, la première, c'est quoi, par exemple?
C'est celle du Népal, je crois.
Ah oui, oui, donc cette vidéo que tu avais faite au Népal pour ta retraite méditative, c'est ça, il me semble?
Exactement.
D'accord. Je précise juste, les gens du chat, n'hésitez pas à poser des questions à notre ami Cyrus, et donc je lui poserai ensuite, de votre part. Par rapport à ça, par rapport à cette retraite méditative, Cyrus, là, depuis le début de ce... Enfin, pas depuis le début, mais depuis quelques jours, tu t'es lancé dans un nouveau projet, donc c'est un concept de plus sur ta chaîne, qui est très intéressant, puisque tu proposes aux gens qui te suivent de méditer avec toi en direct, tous les matins, à 8h, si je ne m'abuse.
Tu ne t'abuses pas.
Alors, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ça?
Alors, ça fait très longtemps que j'ai envie de méditer en live sur Internet. Ça fait même avant que je déménage. Mais en fait, je n'ai jamais trouvé le bon moment. Je voulais le lancer juste avant le confinement. Mais je suis parti sur le bateau de Sea Shepherd. Et donc, je me suis dit que ça allait couper du coup la route. En fait, tu as besoin d'une forme de routine quand même pour pouvoir promettre ça aux gens. Et donc en fait le confinement ça a amené cette routine sur un plateau d'argent, si tu veux. Donc je me suis dit bon, c'est juste le meilleur moment pour lancer ça, quoi. Mais c'est un projet que j'avais depuis longtemps, et c'est à la fois pour les autres mais en grande partie aussi pour moi, c'est-à-dire que moi ça me force du coup à me lever assez tôt pour être prêt à 8h, ça me force à méditer tous les matins, ça me force à me donner cette rigueur là et en fait vu que c'est plus facile de se donner une rigueur en collectif, et ben ça, y a plein de gens aussi qui du coup ont pu s'y mettre et qui ont déjà des effets bénéfiques dans leur vie. Je reçois parfois quelques messages où je vois des témoignages sur Twitter et tout qui me font chaudement plaisir. Je ne sais pas si ça se dit chaudement plaisir, mais c'est...
Tout à fait, mais est-ce que la communauté des gens qui suivent tes méditations est en train d'augmenter au fil des jours ou pas?
Non mec, c'est l'inverse. C'est... c'est vraiment, on est en train d'écrémer de ouf. C'est-à-dire que le tout premier live,
il y a que les vrais qui restent.
Exactement. Le premier live, il y avait 1400 personnes. Tu vois, donc 1400 personnes pour méditer le matin à 8h. C'est vraiment, c'était utopique, quoi.
On a des questions qui viennent du chat. Hein, juste pour ne pas prendre trop de retard sur ces questions, je te les pose. Alors déjà, une question qui est liée à ce qu'on est en train de dire. Sur quelle chaîne on retrouve cette méditation? Sur ta chaîne principale?
C'est sur ma chaîne principale, mais à partir de demain, je le tente sur Twitch.
Ah, d'accord.
Ouais.
D'accord. Et ta chaîne Twitch, c'est Twitch Cyrus North?
C'est twitch.tv/CyrusNorth_.
D'accord.
Mais si tu tapes Cyrus North Twitch sur Google, peut-être tu devrais trouver, je ne sais pas.
Et quelle est la raison?
La raison, c'est que je suis en train de me mettre de plus en plus... j'ai envie de tester de plus en plus Twitch. Je ne sais pas si t'as vu déjà, tu m'as charrié sur ma webcam, mais tu vois, c'est mon appareil photo par exemple qui fait ma webcam.
J'ai pas charrié, moi j'ai juste dit que c'était étonnant parce que c'est un appareil photo de très bonne qualité et pourtant l'image n'est pas de super qualité, donc je comprenais pas. Parce que c'est trop qualitatif, justement il y a trop de données qui passent dans le flux peut-être,
mais pourtant sur YouTube, parce que j'ai pu voir un petit peu ce qui se passe sur YouTube, j'ai l'impression que sur YouTube la qualité ça va, non?
Alors j'espère. Est-ce que Vince en régie peut nous confirmer que la qualité est bonne? Super. Parfait. C'est superbe. Alors d'autres questions pour toi Cyrus.
Vas-y.
À quand le retour du meilleur podcast? Déjà, qu'est-ce que c'est le meilleur podcast?
Aïe, 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 la question qui fâche.
Qu'est-ce que c'est?
La question qui fâche. Alors le meilleur podcast, comme son nom l'indique, c'est... tout simplement le meilleur podcast, hein, si vous l'avez cherché, le voici, le voilà.
Bien
c'est un podcast qu'on tient avec mon comparse Tom Aguilar, que vous avez peut-être
on
vu
adore.
Sur la chaîne. qu'on adore, Tom.
Moi, j'adore votre bromance à tous les deux.
Ah ben, il est là, hein. Vraiment, il a cet endroit très spécifique dans mon cœur.
Bien sûr, je comprends.
Et c'est un podcast où on a des invités et à chaque fois, on essaie de déterminer la meilleure chose d'une catégorie. Par exemple, la meilleure cuisine du monde ou par exemple, le meilleur ou la meilleure sportive. Genre, à un moment, on a même fait le meilleur français. Tu vois.
Et c'était donc, qui, alors
je sais plus. Je me demande si c'est pas... alors, c'était peut-être Zidane.
D'accord.
Je sais plus si c'est Zidane. On a parlé de Jérôme Jarre pas mal aussi.
D'accord.
Je crois que c'est Zidane.
Ce podcast, il y a combien de numéros pour le moment?
Tu me poses une colle, je crois qu'on en a...
Gros, plus de... gros.
Non, on en a une quarantaine, je crois.
Une quarantaine. Ouais. Donc, c'est disponible sur Spotify, sur Deezer,
non,
sur iTunes.
Non, pas sur Deezer, je crois.
Pas sur Deezer, sur iTunes.
Ouais. Sur iTunes, évidemment, sur Google Podcast, sur toutes les plateformes de podcast, SoundCloud, Spotify, effectivement pas Deezer. Mais je me demande si Deezer, il faut pas être Deezer Originals ou un truc comme ça, y a pas... c'est pas un peu plus fermé?
Ah, c'est possible, c'est très possible. Mais alors du coup, quand est-ce que ce podcast reviendra? Voilà ce qu'on nous demande.
Ouais, alors écoute, on est en train d'y travailler avec Tom. Le problème, c'est que confinement oblige, on ne peut pas enregistrer de nouveaux épisodes, surtout que nos épisodes se font avec des invités. Donc, on est plutôt, à mon avis, en train de réfléchir à un format qui va permettre d'avoir juste Tom et moi, d'une certaine manière. Et donc, il faudrait que Tom ait le matériel pour enregistrer chez lui. Comme ça, on fait ça. Aujourd'hui, ce matériel, il ne l'a pas encore. Donc,
c'est sur Deezer. Cette émission est sur Deezer.
Mais non, elle est sur Deezer.
Eh oui.
Oh là là.
C'est partout en fait. Hein.
Mais en même temps, c'est le meilleur podcast. Enfin, tu vois. Je veux dire, est-ce que c'est vraiment surprenant?
Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, par rapport à Tom. Donc, c'est vraiment ton acolyte. Vous travaillez pas ensemble que sur ce podcast.
Est-ce que t'es un peu jaloux ou pas?
Ah bah, pas du tout, bah, vraiment pas. Moi, je t'ai dit, je suis touché par cette bromance, vraiment. Il y a plusieurs bromances comme ça sur Internet. Je sais pas, je pense à Bédo et Yacine, par exemple. Ouais. Il y a des tas de gens comme ça, on est content qu'ils soient proches. Et ben, tous les deux, vraiment, il y a un truc. Mais Tom, c'est plus un homme de l'ombre.
Ouais, en fait, je vais te dire, notre modèle et les gars qui nous font vibrer de ouf en termes de duo, c'est Kian et Navo.
Tu vois. Ah, Kian et Navo, évidemment.
Vois, et y a des moments où on s'est senti... c'est vraiment les bon, même pas Padawan parce que c'est même pas comparable, mais tu vois, ils sont tellement loin, ils sont tellement forts, tu vois, et nous on a tellement tout à apprendre, mais on s'est senti un petit peu des micro Kian et Navo, dans ce sens où il y en a un qui est effectivement un peu plus devant la caméra et un qui est un peu plus derrière, un peu plus dans l'ombre, donc voilà, cette configuration effectivement nous plaît. Et c'était quoi ta question?
Qu'est-ce que c'était ma question? Il n'y avait pas vraiment de question. Alors attends, par rapport à Tom, oui, le fait qu'il ne collabore pas avec toi que sur le meilleur podcast, c'est vraiment ton partenaire de travail, quoi. Vous écrivez ensemble.
Ouais, non mais attends, et en plus, il y a plein de trucs que les gens ne verront jamais, mais il y a plein de trucs qu'on a écrits et qui sont dans des cartons, qui sont dans des brouillons, de dossiers, de machins. Tu vois, je te parle de séries, je te parle de... Ouais. D'épisodes de machin. Enfin bref, on a écrit plein de trucs, tu vois.
Alors, comment tu parlais de Kian et Navo? Je sais que Kian et Navo, quand ils écrivent, en général, le but du jeu, c'est de faire rire l'autre. Vous, comment ça se passe, le travail ensemble? Quelle est l'énergie de travail entre tous les deux? Sur un projet, comment ça se passe? Tu amènes une idée, il amène une idée.
C'est compliqué. Alors lui, il est plus fort en idée pure. Il est plus fort. C'est-à-dire que vraiment, il a des idées... il m'impressionne, quoi. Mais justement, ça part dans tous les sens. Moi, je vais peut-être plus le canaliser et je vais être plus. Je pense que je vais être un peu plus strict, tu vois, sur. Non, ça, c'est ça. Ça, c'est. Faut pousser ce truc-là, tu vois. Et donc, et lui, il va aussi me challenger sur certains trucs. Et je vois. Bref, je sais pas. C'est compliqué cette question.
Ben attends, je passe à autre chose. Tu nous parlais tout à l'heure de cette vidéo que tu as faite au Népal.
Ouais.
Donc pendant cette retraite méditative.
Ouais.
Donc il y a de très belles images d'ailleurs au drone. Est-ce que tu avais pété ton drone pendant ce tournage ou je confonds avec un autre tournage?
Non.
Il n'y a pas eu de problème de drone?
Si, enfin je l'ai réparé. Je l'ai pété, mais à un moment il se casse la gueule.
Oui.
Mais je m'en suis tiré. sans problème. Mais
tu l'as réparé, d'accord.
Ouais.
Non, parce que c'est pour moi, à l'époque où cette vidéo est sortie sur ta chaîne, c'était une des plus abouties. Mais depuis, il y a eu une autre vidéo que moi j'aime beaucoup, qui est peut-être ma préférée de
Ah,
ta
c'est sur
chaîne.
l'ennui?
Alors, moi, c'est celle que tu as faite avec Charles Villa. Donc, vous êtes
Ah,
parti
ouais.
au Liban.
Ouais.
C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette vidéo-là, pour ceux qui ne l'auraient pas vue?
Putain, cette vidéo, elle était donc dans mes dernières. Enfin, je pense ma dernière vidéo où je suis vraiment le plus fier. Et vraiment, il y a certaines vidéos, ça arrive une fois par an à peu près, je pense, où j'ai l'impression vraiment d'accoucher un truc, quoi. C'est genre, oh, tu vois, genre. Et genre, c'était des semaines, des jours et des semaines de montage à essayer de comprendre. Et ça s'est fait parce que j'avais une deadline pour la sortir, puisque Brut sortait sa vidéo un dimanche. Et donc, je pouvais pas la sortir quand je voulais, tu vois. Donc, je pouvais pas me prendre une semaine de plus. Et je me souviens que, genre, 3-4 jours avant, je savais toujours pas comment j'allais angler le truc, comment j'allais faire En gros, il manquait le fil rouge, si tu
On
veux.
peut rappeler le thème justement de cette vidéo?
Ouais, le thème, c'est. En gros, c'est se baser sur cette. Il y a cette théorie de l'adaptation hédonique qui dit que, en gros, après un événement très heureux, ton niveau de bonheur va grimper, mais ensuite il va redescendre à un niveau normal. Et après un événement très triste, pareil, il va descendre, mais ça va remonter à un niveau normal. Et que si tu fais une expérience, il y a une expérience qui a été faite, on a pris des gagnants du loto et des gars qui ont été tétraplégiques, et après. Je sais plus combien de temps, on a comparé leur niveau de bonheur était les mêmes qu'avant qu'ils gagnent ou avant qu'ils soient tétraplégiques, tu vois. Donc, tu vois, genre, je me suis dit, bah, en fait, vu qu'on va au Liban et qu'on va voir les gens qui sont censés être les plus malheureux du monde, puisqu'on va dans des camps de réfugiés syriens, des gens qui ont fui leur famille, qui ont fui leur maison, qui ont tout fui et qui n'ont plus rien depuis 6-7 ans, tu vois, on va les voir eux. On va leur demander s'ils sont heureux, tu vois. On va avoir cette indécence de leur demander ça. Et on va poser la même question à des gens qui sont en Californie, à Venice Beach, dans l'un des pays les plus développés du monde.
Qui sont censés être, eux, au contraire, les gens les plus heureux de la planète.
Exactement.
D'après ce qu'on nous vend,
Ouais.
film et ailleurs. Ouais.
Exactement. Et en fait, bah déjà, c'était intéressant de voir deux choses. Un, que en fait les Syriens étaient pas si malheureux que ça, selon leur dire. On
C'est un
s'attendait à des
système de
notes.
notation, hein. Il faut préciser que c'est un système de notation. Tu leur demandais
Bien sûr,
de
ouais, je leur demandais de
noter
se
leur bonheur.
noter. Ouais, exactement, ils se notaient eux-mêmes de 1 à 10 leur niveau de bonheur. Et tu vois, il y a des trucs, tu entendais, c'était vraiment extrêmement triste. Tu t'attendais à un 2, et en fait, tu avais un 5, tu vois, ce genre de choses. Donc ça, c'était très étonnant. Et la deuxième chose étonnante, c'est que voilà, les résultats entre les deux personnes interviewées, enfin les deux groupes de personnes interviewées, même si c'était des petits groupes, donc c'est pas vraiment une expérience à proprement parler, c'est plus une illustration, les différences étaient assez faibles. Et non, cette vidéo, c'était un kiff à faire. Je me souviens, j'ai dû avoir l'idée juste avant de partir avec Charles de le faire comme ça. Et en fait, je devais partir aux US après pour la graduation de ma petite sœur. Donc, j'ai fait d'une pierre deux coups. Et en fait, ce qui m'a sauvé, c'est qu'il y a un TED d'un gars qui parle de tout ça.
Conférence TED.
Voilà, une conférence TED. Et donc, en fait, je m'en suis servi pour faire le fil rouge, si tu veux. Et comme ça, je n'ai pas eu besoin de faire de facecam, etc.
Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette vidéo, c'est qu'elle illustre une théorie qui est séduisante sur le papier, qu'on peut entendre, voilà, comme tu lis, dans des conférences TED, mais là, elle était à l'épreuve du réel, quoi. C'est-à-dire que tu es allé voir des gens qui vivent vraiment des choses terribles actuellement, et ils ont illustré cette théorie de la manière la plus spectaculaire qui soit, puisque je me souviens d'une scène où on voit des enfants dans la rue qui jouent dans la poussière en Libye, et tu leur demandes quel est leur niveau de bonheur de 0 à 10, et il y en a un qui dit même 10, je crois.
Ouais, alors
Et
en
tu
Liban,
répètes
du coup, je me permets, mais oui, effectivement.
J'ai dit quoi?
T'as
J'ai
dit
dit autre
Libye.
chose. Ah, pardon, Liban, Liban. Donc il dit qu'il
Ouais.
est le plus heureux qui puisse être, quoi, en fait.
Ouais. Ouais,
Ce qui
ouais.
est
Et d'ailleurs,
hallucinant.
cet enfant était incroyable. Il avait tout le temps le smile. Enfin, c'était incroyable. Mais ouais, de très, très bons souvenirs, cette vidéo. C'était très bien.
Alors, ce principe de comment on dit? D'équilibre hédonique,
Adaptation hédonique.
adaptation hédonique.
Les
Est-ce que
Américains disent hedonic thread mill, parce
Ah oui,
qu'il
d'accord.
y a cette idée de tapis roulant, parce que
D'accord.
pour eux, en gros, ils lient ça à la consommation aussi. C'est-à-dire
OK.
les Américains vont dire, c'est pour ça que tu penses que tu vas être plus heureux en achetant une paire de Nike. Une fois que tu as ta paire de Nike, ça revient avant, comme avant. Ouais. Ensuite, du coup, tu vas vouloir t'acheter une voiture. Ça revient comme avant. Tu vas vouloir t'acheter une maison. Ça... Donc, hedonic treadmill, tapis roulant hedonique.
Alors, j'ai une petite question par rapport à la situation que nous vivons tous actuellement. Est-ce que toi, tu as justement éprouvé cette adaptation hédonique? Est-ce qu'au début du confinement, tu étais plutôt malheureux, plutôt triste de ce qui se passait? Et est-ce que tu as l'impression de t'adapter au fil du temps ou pas?
Alors, je vais être très honnête, non. En fait, je me suis pas senti triste ou quoi du confinement. En fait, je suis assez finalement, je suis bien chez moi. Je suis très bien chez moi. Par contre, non. Ce qui s'est passé, c'est que plus les jours passaient et moins il y avait de chance d'avoir des symptômes, etc. Et tu vois, j'ai appelé notamment mes parents, tout ça. Voilà. Donc, moi, c'est plus à ce niveau-là que j'ai été rassuré. Je touche du bois pour l'instant. Surtout qu'on revenait des États-Unis avec ma copine. C'est-à-dire qu'on a avancé nos billets pour éviter le ban de Trump. Oui. Parce que Trump a interdit les déplacements entre l'Europe et les États-Unis. Donc, on est parti vraiment in extremis. Et donc, à un moment pré-confinement, on a pris l'avion sur des vols de 10h, 11h. Donc, moi, ma peur, elle était plus sur... pour moi, c'était évident qu'on l'avait, tu vois. Surtout qu'on était à l'hôtel avant, enfin, etc. Okay. Donc, on l'a peut-être eu. En tout cas, pas eu de symptômes. Ouais, dis-moi.
D'accord. Petite question dans le chat de l'ami Charles Villa, qui est là, qui nous regarde.
Et Charles, on t'embrasse.
Mais bien sûr. D'ailleurs, il y a un documentaire de Charles qui vient de sortir sur la chaîne de Brut où il interviewe un tueur à gages.
Non, mais ce mec est...
incroyable.
Non, mais
il a fait plus d'un million de vues en 24 heures. Enfin, c'est une folie.
Et donc, respect pour Charles Villa. Enfin, les gens ne se rendent pas compte, je pense.
Il est patent. Alors, il me demande de te demander si tu étais serein. Je pense qu'il y a du sarcasme dans cette question. Est-ce que tu étais serein quand il voulait faire du drone dans le camp de réfugiés?
Ah, moi, j'étais pas du tout serein. C'est-à-dire que tout le monde disait à Charles, ouais, je me souviens, les gens qui étaient là-bas lui ont dit, voilà, non, on ne peut pas cautionner ça. On peut pas, parce qu'on n'a pas les autorisations, etc.
Ouais.
Et donc, Charles, il a fait, ok, moi, je le fais, je fais mon petit tour de drone et je rentre, tu vois.
Ouais.
Et le truc, c'est qu'il y avait une forme de tension quand même sur le camp, parce que même si on t'a autorisé à venir, au bout d'un moment, tu vois, les gens qui sont sur le camp, ils s'impatientent, ils disent, ok, bon, bah, ils sont là encore longtemps, les gars.
Ouais,
c'est quoi toutes ces caméras? Enfin, tu vois, genre, ça bien peut. Il y en a qui sont hyper à l'aise avec, et il y en a qui s'attendent, tu vois. Et donc moi, je suis rentré avec les ONG et tout, machin. J'ai dit à Charles, parce que moi, j'ai vu que j'avais pas de carte de presse, j'avais pas tout ça, j'avais pas Brut qui me baquait. Moi, j'étais solo, si tu veux. Donc, je suis rentré avec tout le monde et Charles, il est resté tout seul faire les images de drone. Et j'avoue, j'étais inquiet jusqu'à ce que je le revoie à l'hôtel, quoi.
D'accord.
Petit coquin de Charles.
Alors, il nous reste quelques minutes. Est-ce que Cyrus, tu aurais...
Ah ouais.
Il est 53. Et oui, mais le temps
passe trop vite. Bonne compagnie,
mon bon Cyrus. Alors, ma question pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu aurais des conseils de choses à faire ou à voir, ou à lire pendant ce confinement?
Alors, bon, Patrick, entre nous, on va peut-être pas en parler, mais toi-même, tu sais, on joue de temps en temps avec Patrick en réalité virtuelle.
C'est vrai.
Voilà, disons-le. Donc, il y a ça, il y a jouer en réalité virtuelle quand vous pouvez. On en reparlera plus tard. Sinon, alors j'ai pris quelques bouquins là, mais je vous avoue, je trouve que je lis pas assez en cette période de confinement. J'ai regardé quelques films sur Netflix, j'ai regardé La Plateforme. T'as vu ça ou pas?
Non, j'en ai entendu parler. Apparemment, ça buzz beaucoup, ce film-là.
Un mec, accroche-toi. Hein. Si tu le regardes, c'est tense et c'est violent. Ouais.
Ah, d'accord.
Voilà.
Okay.
Ouais, je connais des gens qui m'ont dit regretter l'avoir vu.
Ah oui, donc à déconseiller aux gens qui ne sont pas au top au niveau moral actuellement.
Ouais, surtout qu'en plus, en fait, il y a une résonance un peu avec le confinement, je trouve, parce que s'ils sont dans une prison d'une certaine manière.
Ah, d'accord.
Donc, voilà, si tu es confiné dans un immeuble et que tu as des voisins au-dessus et des voisins en dessous, et que, voilà, ouais. Ça peut te rappeler certaines choses.
D'accord.
Bon, je conseille ce livre, évidemment, que je suis en train de lire en ce moment. Donc, Mémoire vive de Edward Snowden, enfin Permanent Record en anglais, qui est clairement une autobiographie où il parle évidemment de bah, tout ce qui s'est passé avec la NSA, tout l'espionnage qui se fait aux États-Unis. Voilà, je t'avoue que depuis, je fais un peu plus attention à...
Ah, c'est pour ça que tu fais super gaffe aux réseaux sociaux, etc. D'accord.
Ah, alors, bah, juste
par rapport à Edward Snowden, ouais. Je trouve qu'on n'est pas assez reconnaissant en tant que société vis-à-vis de ce mec. Parce que ouais. Voilà un mec qui a tout perdu. C'est-à-dire qu'il a tout sacrifié, quoi.
Ouais.
Pour prévenir les gens qu'on essayait d'abuser d'eux. Et je trouve ça extraordinaire, parce que vraiment, il avait tout à perdre. Parfois, il y a des gens qui peuvent faire preuve d'altruisme pour leur propre promotion, ou pour communiquer, ou parce qu'ils peuvent y gagner quelque chose. Lui, il a tout perdu. Il a dû fuir sa famille, il a dû fuir son pays. Il a vraiment tout perdu. Il gagnait extrêmement bien sa vie. Et en fait, il a juste décidé que ce qui était le plus important pour lui, c'était de dire la vérité aux gens. Ouais. Et pour moi, il n'est pas assez remercié pour ça. C'est vraiment un héros. C'est vraiment un héros des temps modernes, ce type.
Mais donc, tu veux que je dise, le pire, c'est même pas, pour moi, c'est même pas ça. C'est qu'effectivement, il n'est pas assez remercié. Mais pire, les gens ne l'écoutent pas, n'ont pas pris conscience ouais. De la gravité et de l'impact que ça peut avoir. Si les gens pensent qu'ils n'ont rien à cacher, je vous envoie vers une de mes vidéos que j'ai fait l'année dernière qui s'appelle « On a tous quelque chose à cacher ». Où en fait, tu comprends en fait, quand tu creuses un peu ces sujets-là que effectivement, l'idée, c'est pas d'accord, tu n'as peut-être rien à cacher parce que bah, tu ne travailles pas pour la défense française ou ce que tu veux. Mais il faut imaginer vraiment que c'est comme s'il y avait quelqu'un dans ton salon tout le temps. Et donc, c'est juste la question de privacy, tu vois, de vie privée. C'est que tu ne diras pas les mêmes choses, tu ne comporteras pas les mêmes choses, tu ne comporteras pas, pardon, de la même façon s'il y a quelqu'un qui écoute, tu vois.
Bien sûr.
Et il y a quelqu'un qui écoute, en fait. Ouais. Enfin, qui potentiellement peut écouter.
Donc, il y a un film, je crois, sur Snowden, d'ailleurs, qui s'appelle
Snowden. Deux.
C'est un documentaire.
Il y en a deux, même.
Deux films.
Ouais.
Il y a un documentaire et une fiction, c'est ça?
Ouais.
Ok. Et je crois qu'il est sur... Il y en a un des deux qui est sur Netflix, d'ailleurs, il me semble. Enfin, je ne suis pas sûr, mais...
C'est possible, j'avoue, c'est possible.
Ok.
Moi, j'ai vu la fiction qui était sympa, mais pas... pas ouf. Enfin, bref, on s'en fout.
D'accord.
Celui-là, incroyable. Incroyable.
Le fameux...
Yuval Noah Harari, 21 leçons pour le 21e siècle.
Qui a écrit un article récemment, d'ailleurs, sur le confinement.
Ouais, qui m'a un peu déçu, d'ailleurs. Je l'ai analysé hier en live sur Twitch, justement, parce que je voulais l'utiliser pour une de mes prochaines vidéos.
Okay.
Et j'étais assez... En gros, il est très, très... lui, il dit qu'il faut responsabiliser les gens. Tu lis l'article et tu te dis, mais mec, tu vis dans le monde des bisounours. C'est pas possible, quoi. Tu vois, genre... il dit, ouais... Enfin, tu as envie de lui dire, t'as pas vu les images pré-confinement à Paris, quoi. Mais sinon, évidemment, son édito était hyper intéressant, comme d'habitude. Hein. Là, je me permets de le critiquer parce que j'ai une haute exigence de ce monsieur, parce qu'il a fait un travail formidable par ailleurs.
On peut rappeler que donc, c'est l'auteur de 3 livres qui ont extrêmement bien marché en librairie du monde entier. Donc, c'est Homo Sapiens.
Homo Deus.
Homo Deus.
Et il me semble que le troisième, c'est pas celui-là?
Si, si. 21 leçons pour le 21e siècle.
Ouais.
Donc, ouais.
Et d'ailleurs, c'est un grand méditant aussi. Enfin, c'est un grand, je ne sais pas, mais il médite beaucoup. Voilà,
D'accord. Eh bien...
Et j'en ai un dernier.
Ouais, si encore. Vas-y, je t'en prie.
C'est un pote à moi qui s'appelle Jonathan Lehmann qui m'a envoyé ce livre juste avant le confinement, qui a beaucoup, beaucoup taffé sur ces problématiques de bonheur, que ce soit via la méditation, via d'autres choses. Enfin, voilà, il a beaucoup travaillé là-dessus. C'est un mec, tu sais, il était avocat à New York, il avait une vie dans l'excès, enfin vraiment, c'est un ouf. Et à un moment, il s'est dit, ok, vas-y, c'est trop. Et d'un coup, il a vraiment changé du tout au tout. Et il s'est mis à taffer le bonheur en étant un mauvais élève du bonheur, d'où les antisèches du bonheur.
D'accord.
Et
Si je peux me permettre, j'en profite, puisqu'on parle d'anti-sèche, j'en
Ouais.
profite pour dire que tu fais aussi la chaîne L'Anti-Sèche,
Bien
qui est
sûr.
à conseiller à tous les gens qui actuellement, les étudiants, les
Bien
lycéens, les
sûr.
collégiens, qui ne peuvent pas aller à l'école et qui peuvent aller sur la chaîne de L'Anti-Sèche, la chaîne YouTube de L'Anti-Sèche, pour réviser et pour rattraper un peu les cours qu'ils ne peuvent pas faire actuellement.
Exactement, exactement. On a même donné un conseil, des conseils pour mieux réviser de la maison. Et là, on est en train de travailler sur une vidéo où, en gros, les élèves vont m'envoyer leur setup et tout. Et je vais commenter leur setup pour leur donner de meilleurs conseils pour bien réviser et travailler de chez soi. Voilà.
Superbe, eh bien merci beaucoup Cyrus. Cette émission touche à sa fin. Donc
Ah là
j'étais
là, c'est
ravi,
passé à une vitesse.
ça allait très vite, j'étais ravi de t'avoir. Je précise juste que donc pour faire cette émission, on a la chance d'être soutenu par notre partenaire le CNC Talent. Et d'ailleurs, si vous avez envie de voir des films, il y a tellement de films à voir, si vous avez envie de voir des films en VOD et que vous ne savez pas où les trouver, eh bien, le CNC a mis en ligne une plateforme. Je vais vous donner l'adresse, c'est vod.cnc.fr. Donc vous allez sur ce site, vous rentrez le nom du film que vous cherchez. Et donc, vous pourrez savoir sur quelle plateforme donc de VOD elle est disponible. Donc voilà, c'est assez pratique parfois quand on cherche un film et qu'on ne le trouve pas. VOD.coc.cnc.fr. Merci au CNC de leur soutien. Cyrus, je t'embrasse. On se retrouve très bientôt sur tes réseaux, sur ta chaîne.
Gros bisous, on se retrouve très bientôt en VR surtout, mon pote.
On se retrouve en VR juste après d'ailleurs.
On a des zombies à dégommer, je crois.
Absolument, absolument. Et je vous embrasse, vous aussi qui regardez. Merci d'avoir été avec nous pendant 7 heures. J'espère que c'est bien passé pour vous. Et on se retrouve vendredi à 17h pour le deuxième numéro de ce nouveau rendez-vous, Frames en live. À très bientôt. Salut à tous.
Ciao.